On va ce soir commencer une petite série de rencontres sur ce sujet qui vous a été présenté. À quoi sert le christianisme? Alors cette question, c'est une question que j'entends souvent, c'est une question que je vois sur le visage des gens que je rencontre régulièrement, parce que le christianisme a maintenant 2000 ans. Et beaucoup de gens dans la société moderne se posent la question, tout ce dont nous avons hérité, à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile à quelque chose? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? À quoi ça sert? Alors, j'aimerais, au travers des six rencontres que l'on va avoir, essayer de répondre à cette question, parce que je crois que le christianisme sert à quelque chose, mais pas nécessairement à la même chose que tout le monde pense. Et dans ce sens-là, j'aimerais regarder avec vous ce que l'on peut dire de cette question-là. Pour ce soir, j'ai choisi un titre peut-être un petit peu provocateur, mais qui est suggestif déjà de l'idée dans laquelle, du sens dans lequel on va aller. J'aimerais ce soir essayer de dresser comme une toile de fond. Sur cette toile de fond, nous allons accrocher les différents sujets que nous allons voir les prochaines fois. À quoi sert le christianisme quand je souffre? À quoi sert le christianisme pour prolonger ma vie? À quoi sert le christianisme dans ma famille? À quoi sert le christianisme dans différents aspects de notre vie concrète, pour essayer de trouver des solutions qui soient pratiques? Alors, christianisme des hommes et christianisme de Dieu. J'aimerais, dès le départ, vous dire que je crois fondamentalement à la valeur des Saintes Écritures. Et quand je parle des Écritures, je parle de la Bible, de A à Z, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est par conséquent dans les Écritures que nous allons chercher la réponse à cette question-là. Je parle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire que je me sens à l'aise d'utiliser la Bible dans sa totalité, pas dans une partie seulement. Certains croyants pensent aujourd'hui qu'une partie seulement des Écritures leur est utile, et ils ont une lecture extrêmement sélective des Écritures. Je prends toutes les Écritures comme étant la parole de Dieu et utile pour nous conduire dans le monde d'aujourd'hui. Je crois que le Christ n'est pas venu simplement pour des gens à un temps spécifique, il est venu pour apporter une solution au monde, et cette solution, elle se trouve dans les Écritures. Alors, lorsque j'utilise toutes les Écritures, je me sens à l'aise avec ça, parce que lorsque le Christ est venu, il a expliqué à ses contemporains d'où il venait, pourquoi il est venu, quelle était sa mission, sur la base de quoi l'a-t-il fait. Il l'a fait sur la seule base qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Autrement dit, nous avons dans l'Ancien Testament tout ce dont nous avons besoin pour comprendre le Christ. Le Nouveau Testament, si vous voulez, c'est un bonus qui va élargir ces dimensions-là et nous donner une perspective encore plus large. Mais l'Ancien Testament, c'est ce que le Christ a utilisé pour montrer à ses contemporains ce qu'il était, ce qu'il était venu faire. Donc l'Ancien Testament est une mine extrêmement riche si l'on veut comprendre le Christ et par conséquent le christianisme qu'il a installé. Les auteurs contemporains, certains auteurs contemporains réagissent et s'expriment clairement sur cette situation des Écritures. Jacques Ellul, c'est un philosophe français, c'est un croyant, qui s'est fait remarquer auprès des Français par son implication dans la résistance pendant la guerre, et qui a écrit plusieurs ouvrages qui ont frappé l'attention des croyants, parce qu'ils ont souvent une approche extrêmement interpellante par rapport à l'existence et au christianisme. Et dans son livre, dont nous allons extraire plusieurs passages ce soir, Jacques Ellul dit ceci: « Il y a une cohérence parfaite entre tout ce que nous pouvons savoir de Jésus, le Christ, et la révélation du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Une cohérence parfaite. Alors, c'est cette cohérence que j'aimerais essayer de retrouver, de dépoussiérer avec vous. Pour commencer, j'aimerais faire référence à une parabole, une petite parabole que Jésus a racontée. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, Jésus dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors vous savez comment ça se passe à l'époque. Il n'y a pas de banque. Quand on a des valeurs, on va dans son champ, on creuse un trou, on met le coffre là-dedans, on mesure à combien de distance on est de tel arbre, à combien de distance on est de tel arbre, on rebouche tout ça et c'est fini. Et puis, il arrive que celui qui a fait ça meure, ou il oublie, et puis le trésor reste là. Plus tard, des serviteurs, le propriétaire suivant, longtemps après, laboure son champ et pof, il tombe dans le coffre. Et il a fait une trouvaille fantastique. Ici, Jésus reprend cette image. Voilà, il y a un homme qui travaille dans un champ, mais ce n'est pas le sien. Et il y trouve un trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dit, dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Parce qu'il sait que ce qui est caché dans ce champ a infiniment plus de valeur que tout ce qu'il a. Et Jésus définit ainsi son royaume, le royaume des cieux, qui commence ici-bas. Ce christianisme que Jésus ouvre, il le présente de cette façon-là. Il a infiniment plus de valeur que tout ce que nous avons. Et le Christ propose aux chrétiens ce sacrifice-là. C'est ce qu'il dit aussi dans le même évangile, lorsqu'il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Comme si tout le reste, qui pour nous aujourd'hui, dans un monde matérialiste d'une extrême importance, était finalement pas le numéro un dans la pensée de Jésus. Donc cette découverte du christianisme, du vrai christianisme du Christ, si vous voulez, c'est une recherche qui va nous conduire à découvrir quelque chose qui, je crois, a une très grande valeur. Au point où Jésus dit, voilà, ça vaut la peine de sacrifier tout ce que vous avez pour ce que vous allez découvrir dans le christianisme du Christ. Maintenant, à quoi sert le christianisme? Le christianisme a 2000 ans. Et en 2000 ans, le christianisme a beaucoup souffert. Il a souffert de situations compliquées auxquelles on a essayé en tant que chrétien de s'adapter. Il a souffert de guerres, il a souffert du bouleversement des cultures. Il a souffert de beaucoup de choses. Et il a aussi souffert d'une couche impressionnante de poussière qui s'est accumulée avec le temps et de traditions, d'un tas de choses. Après 2000 ans, à quoi sert le christianisme? Est-il encore utile à quelque chose? Peut-il servir à me faire vivre autrement aujourd'hui? Y a-t-il un bénéfice pour moi au christianisme? Ou bien est-ce que c'est simplement une tradition ou une vieille image qu'il faut garder parce qu'on n'ose pas l'acheter? Y a-t-il quelque chose de vivant dans le christianisme qui est utile à l'homme du 21e siècle? Beaucoup de gens se posent la question d'une façon très sérieuse. Parce que ce christianisme qui s'est érodé, qui s'est usé et qui a été peut-être aussi abusé pendant 2000 ans, ne semble pas répondre à cette question-là pour beaucoup de nos contemporains. Christianisme utile à quoi? Et je vois cette question, j'entends cette question constamment de la part de nos contemporains. Christianisme, oui, mais bon. C'est une vieille affaire, c'est une vieille image. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans son livre « La subversion du christianisme », Jacques Ellul écrit ceci. « Comment se fait-il que le développement de la société chrétienne et de l'Église ait donné naissance à une société, à une civilisation, à une culture en tout inverse de ce que nous lisons dans la Bible, de ce qui est le texte indiscutable à la fois de la Torah, des prophètes, de Jésus et de Paul? Il n'y a pas seulement dérive, il y a contradiction essentielle, donc véritablement subversion. C'est un chrétien du XXe siècle qui écrit ça. 20 siècles de christianisme, et on est en train de constater que l'Église, la société chrétienne qui a été développée à partir du christianisme, se trouve 20 siècles après en opposition complète avec le départ, avec le christianisme du Christ, avec les Écritures. C'est quand même drôlement inquiétant de devoir constater que 20 siècles après, on est exactement à l'inverse de ce que le Christ a donné. C'est même inquiétant parce qu'on se pose la question, mais dans ce cas-là, le christianisme que nous avons ressemble-t-il à ce que le Christ a donné? Est-il encore le vrai christianisme? Ou bien ce que nous avons aujourd'hui n'est plus du christianisme que l'extérieur, que la peau? Je suis quand même frappé de voir que ce philosophe chrétien ne mâche pas ses mots. Une culture en tout, à l'inverse de ce que nous lisons dans la Bible. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est revenir justement à la Bible dont je vous parlais tout à l'heure. Si nous voulons retrouver un christianisme vivant, un christianisme d'origine, un christianisme efficace, un christianisme utile, il faudra inévitablement revenir à ce que le Christ a donné dans les Écritures. Et dans ce sens-là, je crois que nous avons du travail à faire pour remonter le courant, si je peux m'exprimer ainsi, et retrouver le sens véritable du christianisme du Christ. 2000 ans de christianisme, je ne vais pas ce soir refaire toute l'histoire avec vous. J'aimerais seulement survoler l'histoire à grande vitesse et noter au passage quelques éléments en rapport avec le christianisme. Les croisades, du Xe au XIIIe siècle, sont parties avec une fort bonne intention. Reconquérir les lieux saints. Et l'Europe chrétienne s'est engagée d'une façon assez extraordinaire dans cette reconquête des lieux saints. Mais combien de gens sont morts dans ces croisades? Combien? Personne ne saura jamais. De part et d'autre. Ce sont des campagnes qui ont coûté des fortunes. On a reconquis les lieux saints, mais est-ce qu'on a conquis le cœur des hommes de ce temps-là au Christ du christianisme? Je ne suis pas sûr. On avait, à peine fini les croisades, on a fait l'Inquisition. Dès 1231, l'Inquisition va opérer. Et j'aimerais simplement vous donner un exemple, un seul exemple, pour ne pas vous raconter toute l'histoire de l'Inquisition. En Espagne, c'est-à-dire dans un seul pays d'Europe, et l'Inquisition a sévi dans de nombreux d'entre eux, pendant une période limitée de 17 ans, dans les années 1400, on a eu, par l'Inquisition, 112 431 exécutions, avec toutes les formules que vous pouvez avoir, brûlés, égorgés, suppliciés, pendus, morts aux galères, etc. Pourquoi faire? Eh bien, le dictionnaire nous donne la réponse, la clé. Après la prise de Grenade, la hiérarchie catholique a utilisé l'Inquisition pour maintenir ses positions, expulsion des Morixes, donc les Arabes, des Juifs, exécution des renégats, extermination du protestantisme. Mais qu'est-ce qu'on fait là? À quoi sert le christianisme? En 17 ans, 12 000 exécutions. En 17 ans. Et l'Inquisition a opéré sur des siècles. Et ensuite, l'élimination de tout un tas de gens qui, eux aussi, était à l'intérieur du christianisme. On pense aux grandes croisades contre les Albigeois, contre les Cathares, qui se sont étendues aussi sur plusieurs siècles, et qui étaient destinées à éliminer ces gens parce qu'ils pensaient autrement que la majorité des chrétiens de l'époque. Et vous vous souvenez peut-être, lorsque la place forte de Montségur a été assiégée, Simon de Montfort, qui était le chef de l'armée, qui assiégeait Montségur, était prêt de faire l'assaut et de prendre Montségur. Il a demandé au chef religieux qui était avec lui, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va savoir qui est hérétique et qui ne l'est pas. Et c'est là que cette fameuse phrase a été prononcée, que vous connaissez, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». À quoi sert le christianisme? On a la même chose avec les Vaudois, et les Vaudois du Piémont, qui ont dû s'expatrier, se sauver, revenir, qui ont été déplacés, qui ont finalement été traqués dans leur vallée vaudoise comme des bêtes sauvages, parce qu'ils voulaient, ils faisaient des efforts extrêmement sérieux pour revenir aux Écritures. On a la même chose avec les Huguenots, qui ont été persécutés pendant de nombreux siècles. Lorsqu'on prenait une famille avec la Bible dans la maison, la femme était envoyée en prison, l'homme était envoyé aux galères, les enfants au couvent. On brûlait la maison, on brûlait le village, on faisait un tas avec les Bibles, on brûlait le tout. Le nombre de Bibles qui ont été brûlées est incalculable, mais le nombre de gens qui sont morts simplement parce qu'ils revenaient aux Écritures ou parce qu'ils avaient une conception du christianisme qui était différente est incalculable. À quoi sert le christianisme? Les grandes figures ont disparu aussi. Ici, ce ne sont que quelques exemples pour illustrer mon propos. Jean Hus, qui était le recteur de l'université de Prague, exécuté en 1415. Savonarole, un dominicain de Florence, qui est brûlé sur le bûcher en 1497. L'amiral de Coligny, qui est en charge de la marine française, a été aussi tué lors du fameux massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, où en une journée, 30 000 personnes ont été exécutées. Cette journée avait été préparée bien à l'avance, et une journée de massacre organisée en France. 30 000 dans une journée. Alors, à quoi sert le christianisme? Est-ce que le christianisme sert à ça? Et j'entends dans les remarques de nos contemporains cette question, mais enfin, si le christianisme sert à ça, est-ce que vous n'avez pas autre chose à me proposer? Maintenant, la Révolution française est une réaction intéressante dans l'histoire du christianisme. Le dessin que vous avez sur la gauche, c'est une image qui a été faite au moment de la Révolution française et qui est intéressante parce qu'on voit là un paysan qui est en train de crouler sous le poids de deux personnages. L'un représente le clergé et l'autre la bourgeoisie. À la Révolution française, on a tout jeté à la poubelle, le bébé avec l'eau du bain. On a jeté en même temps le roi, la bourgeoisie, le clergé, Dieu, l'Église, la Bible, la religion, et tout est parti, d'un seul coup. Parce qu'on a pris tout en bloc, et on a voulu se libérer de tout ça, parce que c'était considéré jusque-là comme un fardeau tellement pesant que la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était s'en débarrasser. Et c'est ce que la Révolution française a voulu faire. Se débarrasser de tout ce que le christianisme représentait à leurs yeux. Et noter que déjà, à ce moment-là, la question se posait. À quoi est-ce que ça sert? Réponse au moment de la Révolution française, à rien. Donc on s'en débarrasse. Et on a tout jeté d'un coup. C'est dire que cette question « à quoi sert le christianisme ?» n'est pas nouvelle. On se pose cette question, mais enfin, en quoi est-ce que ça change notre existence, notre vie? Et beaucoup n'ont pas de réponse à cela. Le XXe siècle ne fait guère mieux. Le XXe siècle a commencé avec la folie des grandeurs. Quand le XXe siècle a commencé, on était prêt à avoir un siècle fantastique, un siècle ouvert sur... On avait le temps pour nous, on avait les ressources pour nous. L'homme allait vivre en paix, allait se développer, c'était fantastique. On avait au début du XXe siècle une vision une vision très positiviste du monde, très optimiste de la vie. Et d'ailleurs, les constructions de cette époque-là traduisent cette mentalité. Quand vous voyez les bâtiments qui ont été construits dans les années 1900, au début des années 1900, c'est impressionnant. Vous avez des choses colossales qui traduisent cette idée que maintenant on va avoir un monde fantastique, un développement à l'infini. On va avoir un monde heureux, un monde de paix, parce que l'homme est intelligent, l'homme a la science, fantastique. Bon, mais le XXe siècle a donné quoi ? Le XXe siècle a innové en inventant les guerres mondiales. Le siècle avait à peine commencé. En 1914 déjà, le monde était enflammé par la Première Guerre mondiale, avec 9 millions de morts. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale, 38 à 40, parce qu'on ne sait pas exactement tellement il y en a eu. Maintenant, quand je pense à ça, j'ai une difficulté. Parce que comment ces deux guerres ont-elles commencé? Où ont-elles démarré? Elles ont démarré dans des pays chrétiens, des pays qui avaient reçu la réforme, qui avaient fait un retour spirituel aux Écritures, qui avaient recherché des vérités bibliques. Alors je sais, le temps avait passé depuis la réforme dans ces pays-là, mais enfin ces pays étaient quand même des pays chrétiens, engagés, réformés, pieux. C'est là que cette guerre a commencé. Et contre qui a-t-on fait la guerre? Contre les chrétiens qui étaient juste de l'autre côté de la frontière, de tous les côtés, au prix de 38-40 millions de morts. Mais alors, le christianisme de ces gens leur servait à quoi? À quoi servait ce christianisme? Si vous recherchez dans les documents sur Internet et sur les statistiques, vous retrouvez les mêmes chiffres. Pour le XXe siècle, dans sa totalité, 200, 203 millions de gens ont perdu la vie dans les guerres. Mais enfin, à quoi sert ce christianisme-là? À quoi sert-il? À ça? Et l'on entend facilement nos contemporains qui disent « Si le christianisme sert à ça, donnez-moi autre chose. » Alors, ça continue. L'Irlande du Nord, c'est un pays fondamentalement croyant, chrétien. Et pourtant, le conflit dure et perdure. Rwanda-Burundi, c'est la même chose, pour prendre un exemple à l'autre bout du monde. Mais c'est la même chose. Le Rwanda et le Burundi sont peut-être en Afrique les pays qui sont les plus christianisés. Le nombre des chrétiens dans ces pays-là est impressionnant par rapport à d'autres pays d'Afrique où la christianisation n'a pas été aussi avancée. Mais on a là des conflits qui n'en finissent pas et qui continuent avec des massacres et des liquidations ethniques. Mais ce christianisme alors? C'est pas difficile non plus de voir que la détérioration morale est caractéristique des pays occidentaux, dits chrétiens. Et qui sont ceux qui vont exporter à l'autre bout du monde l'immoralité qu'ils ont chez eux? Ce sont encore les pays riches, les pays occidentaux, les pays dits chrétiens, qui vont exporter ça dans tous les coins du monde, pauvres, et qui profitent de la pauvreté des autres pour l'y implanter. Quel christianisme alors? Encore une fois. C'est la raison pour laquelle, à cause de toutes ces choses dont le christianisme n'a pas à être fier, et qui sont l'histoire du christianisme, il y a un rejet du christianisme qui s'étend. Alors, encore une fois, je ne prends que quelques exemples. Le rejet du christianisme par les juifs. Parce que eux aussi peuvent dire « je me souviens ». Il n'y a pas que les Québécois. Eux aussi peuvent dire « je me souviens ». 6 millions d'entre eux sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et n'ont pas tout simplement été fusillés contre un mur. Ce sont les camps de concentration. Alors, allez voir nos amis juifs et dites-leur, vous savez, le christianisme, le Christ, c'est fantastique, c'est la solution pour le monde d'aujourd'hui. C'est la vérité. Vous pensez que vous allez être bien reçu? Parce qu'eux aussi se souviennent. Ils se souviennent de toutes ces choses. Rejet par les Juifs. Et je peux comprendre. Rejet par les musulmans de la même manière. Parce que les guerres avec le monde musulman n'ont pas cessé non plus. Et elles continuent encore aujourd'hui. C'est la même chose. Allez voir donc nos amis musulmans pour leur dire, vous savez, le christianisme, c'est la meilleure chose que vous pouvez trouver sur la terre. C'est ce qui va vous apporter le bonheur, la paix, la joie. Pensez que vous allez être bien reçu. Et pour rester plus près de chez nous, rejet aussi par les Amérindiens. À Saint-Louis, sous l'Arche, il y a un musée d'histoire de l'Amérique du Nord. Et dans ce musée, j'ai trouvé l'année passée un texte d'un chef indien qui est extrêmement intéressant. Ce chef indien dit ceci. Ils nous ont fait beaucoup de promesses, plus que je ne peux me souvenir. Mais ils n'en ont jamais gardé qu'une seule. Ils ont promis qu'ils prendraient notre terre, et c'est ce qu'ils ont fait. Allez maintenant voir nos amis amérindiens. Dites-leur, le christianisme, c'est ce qui va donner de la paix, c'est ce qui va donner un sens à votre vie, c'est ce qui va vous libérer de toutes les difficultés que vous rencontrez. Vous pensez que vous allez être bien reçu? Eux aussi disent, je me souviens. Et ils ont des raisons de se souvenir de ces choses. Alors le christianisme, on s'étonne qu'il est rejeté. Il n'est pas simplement rejeté par tous les autres qui en ont souffert, il est aussi rejeté par les chrétiens eux-mêmes aujourd'hui. Parce que dans les églises, c'est beau, c'est grand, mais souvent ça sonne faux. Et beaucoup de chrétiens, n'ayant pas trouvé une réponse à la question dont nous parlons aujourd'hui, ont été tout simplement cherchés ailleurs, faute de trouver une réponse. À quoi sert le christianisme? Beaucoup ont répondu dans leur cœur, pour moi, à rien. Et c'est là précisément le drame d'aujourd'hui. Les chrétiens eux-mêmes commencent à rejeter le christianisme parce qu'ils n'ont plus les moyens de voir à quoi ça peut leur être utile. Beaucoup, beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on leur demande « qu'est-ce que le Christ a fait pour toi ?», ne peuvent pas répondre. Ils n'ont rien à dire. Alors dans ce sens, la question revient à quoi sert le christianisme? La question peut être un petit peu différente. À quoi sert ce christianisme-là? Et je commençais avec cette phrase, christianisme des hommes, christianisme de Dieu. C'est une manière de sous-entendre qu'il y a christianisme et christianisme. Qu'il y a un christianisme qui a subi la transformation du temps, qui a subi les modifications qu'on a voulu lui apporter. Et puis il y a le christianisme que le Christ a apporté et qui n'est peut-être plus celui qui vit dans le cœur des chrétiens d'aujourd'hui. L'auteur dont je parlais tout à l'heure, dans son livre, écrit ceci. Chaque génération croit avoir enfin découvert la vérité, la clé, le nœud essentiel du christianisme, en se plaquant, se modelant sur l'influence dominante. Le christianisme devient une bouteille vide que les cultures successives remplissent de n'importe quoi. Il y va encore plus fort que ce que je vous disais tout à l'heure. Le christianisme a perdu sa valeur et son identité parce qu'il a essayé de se plaquer, de se modeler à l'influence dominante. Autrement dit, le christianisme a été dans le sens où le vent souffle. Le christianisme est devenu un christianisme caméléon qui a pris la couleur locale. Et il dit, voilà, c'est une bouteille vide dans laquelle les cultures vont mettre n'importe quoi, ce qui les arrange. Et puis la culture suivante mettra ses propres affaires dedans et on continue comme ça jusqu'à ce que le christianisme du Christ ne soit plus là. Et aujourd'hui, je crains que notre bouteille soit vide. Elle a été remplie d'un tas de choses. d'un tas de choses différentes, qui faisait l'affaire de ceux qui l'ont introduit dans le christianisme, mais qui, ce faisant, ont détruit le christianisme. Et je crains, hélas, que cette analyse de Jacques Ellul soit vraie, soit beaucoup trop vraie aujourd'hui. Il y a encore ceci, nous devons admettre qu'il y a une distance incommensurable entre tout ce que nous lisons dans la Bible et puis la pratique des églises et des chrétiens. La pratique a été en tout l'inverse de ce qui nous a l'inverse de ce qui nous était demandé. Carrément l'inverse. Si vous voulez, autrement dit, le Christ nous a donné un mode d'emploi et nous, on a fait exactement l'inverse de ce que le mode d'emploi était. C'est dire à quel point le christianisme dont on parle aujourd'hui semble bien ne plus avoir grand-chose à voir avec le christianisme que le Christ a donné, le christianisme de la Bible, dont certains philosophes font l'analyse et se rendent compte aujourd'hui que c'est ainsi. Nous avons atteint une situation où le christianisme moderne est en train de faire l'inverse de ce que le Christ a proposé. Mes amis, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et alors, on s'étonne que les gens d'aujourd'hui disent « Mais le christianisme, ça sert à quoi ?» Dans ce cadre-là, alors il y a christianisme des hommes et christianisme de Dieu. Et l'objectif que j'ai pour moi-même et pour nos rencontres, c'est de dépoussiérer ce vieux christianisme, ce christianisme qui semble ne servir à pas grand-chose, et d'aller rechercher celui qui sert à quelque chose. D'aller rechercher dans les Écritures le christianisme vivant, qui va peut-être changer ma vie dans le domaine de ma souffrance, dans le domaine de ma famille, dans le domaine de ma santé, dans le domaine de mes relations avec les autres, avec moi-même. Y a-t-il un christianisme qui est capable de me faire vivre autrement aujourd'hui, au-delà des difficultés que je rencontre constamment dans les différents domaines de ma vie? Est-ce qu'il y a un christianisme suffisamment puissant pour que je puisse vivre autrement? Je crois qu'il y en a un. Je crois qu'il y en a un. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller le rechercher. Il ne nous tombe pas tout cuit du ciel dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Il ne nous est pas délivré comme la pizza à la maison. Il faut aller la rechercher. Il faut aller le fouiller. Il faut aller le retrouver. Il faut aller le dépoussiérer. Il faut aller le redécouvrir. Et je crois que l'étude de la parole de Dieu nous aide justement à redécouvrir le vrai christianisme. Le christianisme de Dieu, si vous voulez. Jésus n'était pas ignorant de cela. Par ses apôtres, il a averti les chrétiens. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, il est dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, écrit l'apôtre Paul, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, irreligieux, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Il est question ici des derniers temps. Dans les derniers temps, et parmi les caractéristiques que l'apôtre Paul présente des gens des derniers temps, il y a celle-là qui me préoccupe. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors les formes sont là, mais ce qui fait la force du christianisme est absent. Nous l'avons perdu. Notre bouteille est vide. Autrement dit. Alors les formes, on les a. Les rites, on les a. Mais ce qui va changer la vie d'une personne, l'aider à faire face aux difficultés de la vie, ou peut-être même les éviter, est absent. Il n'est pas là. Et nous avons été prévenus par les Écritures de ces choses. Alors j'ai encore une difficulté parce que vous connaissez cette parole du Christ qui dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans l'évangile de Luc au chapitre 18. trouvera-t-il la foi sur la terre? Sous-entendant, quand le Christ reviendra, y aura-t-il encore des gens qui croient sur la terre? Et là, je ne comprends pas, parce que quand je regarde le monde dans lequel nous sommes, que ce soit le monde chrétien ou les autres coins du monde, on entend et on voit partout un réveil de la piété de la religion, une montée de la foi et de la pratique, partout. Alors d'un côté, on a une espèce de réveil de religion, partout, et au fur et à mesure qu'on approche de la fin des temps, le Christ dit, mais lorsque le Fils de l'homme va venir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors il y a christianisme et christianisme, mais aussi foi et foi. Un texte, par exemple, qui est intéressant, dans l'épître de Jacques. J'aimerais juste le lire avec vous dans l'épître de Jacques. Je rencontre souvent des gens qui me disent, mais moi j'ai la foi, j'ai la foi. Je n'ai pas besoin de ça, moi, j'ai la foi. Regardez ce que l'apôtre Jacques écrit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Alors voilà tout d'un coup que le diable a la foi. Mais j'ai pas l'impression que c'est une foi qui va le sauver. Ah, j'ai la foi, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a foi et croyance. Alors, tout le monde croit dans quelque chose. Je crois. Mais à quoi est-ce que ça me sert si cette croyance n'est pas une foi? C'est pas la même chose. Le monde d'aujourd'hui est plein de croyances. Et les gens croient beaucoup de choses. Est-ce qu'ils ont la foi? Non. Ce sont deux choses bien différentes. La foi est sur un registre totalement différent de la croyance. Je peux croire, être capable de réciter un credo, je crois. Et après, ça change quoi? La foi, c'est autre chose, c'est une relation avec quelqu'un. Alors le monde d'aujourd'hui est plein de croyances. Les démons croient aussi, ils savent. Ils savent, eux. Mais ça ne change rien pour eux. Ça ne les sauve pas davantage. Il faudra donc, au-delà des croyances, aller restaurer une foi véritable pour que le christianisme reprenne vie, reprenne du sens et de l'effet en particulier. Il y a donc un christianisme qui n'est pas du Christ. Il y a donc un christianisme qui ne vient pas de la parole de Dieu. Il y a donc un christianisme qui est resté impuissant pour réaliser dans ma vie les promesses du Christ. C'est un constat qui est triste, mais qui malgré tout est un reflet de la réalité du christianisme d'aujourd'hui. Un christianisme usé après 2000 ans, un christianisme abusé, et qui nous laisse, nous, désabuser. Alors, le christianisme, comme on le conçoit, n'est pas d'abord une église. Ce n'est pas parce que je vais une fois par semaine sous un clocher que je suis un chrétien. Écoutez, je prends un exemple. Imaginez, juste avant que je naisse, ma mère a pris sa voiture et puis il y avait quelque chose à la voiture qui n'allait pas. Et puis elle est partie au garage et puis tout d'un coup, oh, voilà, je suis arrivé. Né dans un garage. Est-ce que ça fait de moi un garagiste? Ma mère, avant que j'arrive, elle part en voyage, elle prend l'avion, et puis vous savez, l'avion, ça se coûte, tout ça. Bon, voilà, j'arrive. Né dans un avion, ça fait de moi un pilote? Non. Et pourtant, combien d'entre nous sont nés dans l'église et pensent qu'on est chrétien pour autant? C'est tout aussi étrange. Je ne suis pas un chrétien parce que j'ai une église ou parce que je vais sous un clocher chaque semaine. C'est plus que ça. Le christianisme, ce n'est pas non plus une doctrine. Ce n'est pas un ensemble de croyances auxquelles je souscris intellectuellement et puis c'est fini, on est tranquille. Je crois à tout ça. Et puis, voilà, je fais autre chose. Le christianisme aujourd'hui a compartimenté toutes choses. Il y a le travail, la vie de famille, le loisir, la religion, etc. sans aucune communication d'un domaine à l'autre. Alors je peux enfermer des croyances dans la boîte, fermer la boîte et m'occuper d'autre chose, sans que le christianisme n'ait d'influence dans ma vie familiale, professionnelle, affective, etc. Le christianisme n'est pas d'abord une doctrine. Il n'est pas non plus d'abord un culte. Le fait de participer à un culte, le fait d'être là présent à une cérémonie ou de chauffer les bancs d'une église ne fait pas de moi un chrétien. De la même manière, le christianisme n'est pas non plus une tradition. Ce n'est pas parce que mon père, mon grand-père a fait les choses de cette manière-là que je suis nécessairement un chrétien moi-même. Je ne suis pas chrétien parce que l'État a choisi une religion. Je ne suis pas chrétien parce que mon père a fait un choix, mon grand-père a fait un choix. Je ne peux être chrétien que si je fais un choix moi-même. Alors ces choses ont leur place dans le christianisme. Incontestablement, l'Église, la doctrine, le culte, la tradition, ces choses ont une place dans le christianisme. Mais le christianisme n'est pas d'abord ça. Le christianisme ne commence pas avec ça. Le christianisme ne sera pas vivant et efficace pour moi en commençant par là. Le christianisme, c'est d'abord une personne que l'on aime. Le christianisme porte le nom du Christ. Si je veux que le christianisme soit vivant, si je veux que le christianisme soit puissant dans ma vie, il faut d'abord comprendre que le christianisme, c'est une personne que l'on aime. C'est d'abord un choix et un choix personnel. Je ne peux pas être un chrétien si quelqu'un d'autre choisit pour moi. Parce que si quelqu'un choisit pour moi, je n'aimerai pas le Christ du christianisme. Le christianisme, c'est une manière de vivre. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose que j'ai dans ma poche et dont je suis fier. Ce n'est pas une richesse que je possède et que je tiens fermement dans ma main pour pas qu'on me la vole. Je n'ai pas le christianisme. Le christianisme, c'est quelque chose que je suis. Je suis un chrétien, ou je ne le suis pas. Mais le christianisme n'est pas quelque chose que je possède, comme mes clés au fond de ma poche. C'est du ressort de l'être, non pas de l'avoir. Ainsi, le christianisme de la Bible nous place sur un registre tout à fait différent. Il se place sur le registre d'une relation avec une personne dont son nom est dans le christianisme, qui est venu il y a 2000 ans et qui a donné le mode d'emploi. Alors lorsqu'on a un mode d'emploi, le mieux qu'on ait à faire, c'est de le suivre. Je crois par conséquent que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu du christianisme, a un projet pour l'humanité. Dieu n'est pas en train de faire ses affaires dans un coin, comme certains chrétiens le pensent, et les hommes font leurs affaires dans le leur, chacun chez soi et tout ira bien. Je ne crois pas ça. Dieu a un projet pour l'humanité. Dieu a un projet pour l'être humain. Jésus l'a dit clairement. Le Christ du christianisme l'a dit clairement. « Moi je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Le Christ est venu pour que les chrétiens aient une vie abondante, une vie épanouie, une vie pleine, une vie heureuse. Oh, Jésus a été clair aussi. Jésus n'a pas dit que le christianisme allait être une croisière sur une mer d'huile. Non, il nous a prévenus. Il a dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus ne dit pas que le chrétien va pouvoir avoir une vie où tout baigne, avoir son château, avoir son chalet, avoir sa maison à la mer, son avion personnel, avoir tout à disposition et une vie de pacha. Le Christ n'a jamais promis ça à personne. Regardez la vie de ses serviteurs, regardez la vie des disciples, regardez la vie des prophètes dans l'Ancien Testament. Ce sont des gens qui, attachés à Dieu de tout leur cœur, ont vécu une vie difficile parfois, une vie d'épreuve, mais dans lequel ce christianisme du Christ était fort et puissant pour leur faire traverser ces choses. Un christianisme qui avait un sens. Donc la vie du chrétien n'est pas nécessairement une vie facile, mais une vie abondante quand même, une vie pleine, par la présence d'une personne. Cette promesse de l'Ancien Testament est extraordinaire. Ésaïe écrit, de la part de Dieu, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mer. » Vous remarquez une chose ici. Ce que Dieu souhaite pour l'humanité, c'est le bonheur, c'est la paix maintenant. Ce n'est pas simplement quelque chose d'éthéré dans l'avenir, une vie tout en rose quelque part. Ce n'est pas un médicament dur à avaler maintenant pour que ça aille mieux plus tard. Ce que Dieu a en vue pour l'humanité, c'est de vivre heureux maintenant. Et il nous faut reconnaître que le christianisme n'est pas heureux maintenant. Remarquez une chose. Si tu étais attentif à mes commandements, et ce qui fait la force de ce texte, c'est qu'il est là dans l'Ancien Testament. Il est en plein Ancien Testament. Et Dieu dit, ces commandements, ce n'est pas une liste d'exigences et de choses, de punitions que vous devez remplir pour avoir plein de bonnes œuvres et arriver auprès du bon Dieu et dire, voilà Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait, maintenant tu m'ouvres les portes du paradis avec tout ça. Non, rien à voir avec ça. Les commandements que Dieu nous donne ne sont pas en train de nous donner l'occasion d'accumuler des bons points pour gagner le paradis, ce sont simplement des éléments du mode d'emploi pour être heureux maintenant. Mais ça, c'est une grosse différence. Et c'est ce qui fait sans doute la différence entre le christianisme des hommes et le christianisme de Dieu. Les commandements ne sont pas une liste d'exigences que Dieu demande. Et si tu ne les fais pas, il est là en train de nous attendre avec le bâton pour nous taper sur la tête. Il est en train de dire, mais c'est simple, je te donne un mode d'emploi, pratique-le. Dieu est en train de nous dire, si vous voulez que je prenne une image moderne, si tu mets du gasoil dans ta voiture, ça ne va pas marcher. Et nous on dit, si, moi je fais ce que je veux, je suis adulte, j'ai besoin de personne pour me dire comment je dois faire. C'est l'attitude que nous avons dans le monde contemporain et moderne. Où nous n'aimons pas que quelqu'un vienne nous dire, c'est pas là le chemin, c'est pas là. Non mais je suis assez grand. Et Dieu est simplement sur la pointe des pieds en train de nous dire, les commandements que je t'ai donnés, si tu y étais attentif, ton bonheur serait comme les flots de la mer. Dans ce texte, il ne parle même pas de la vie éternelle. Il ne parle pas du paradis, il parle de maintenant. Le christianisme, c'est sans aucun doute une espérance qui tourne les regards de l'homme vers autre chose, vers la vie éternelle. Mais le christianisme, c'est d'abord et pour commencer, le moyen de vivre maintenant des hommes et des femmes et des jeunes heureux et en paix. C'est d'abord là que ça commence. Jésus a un projet pour nous, pour l'humanité et pour chaque individu. Cette promesse dans Jérémie est intéressante. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu pour nous ne sont pas des projets de guerre, de croisade. Ce sont des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Et nous, nous bénissons les canons. Dieu a un projet pour l'humanité. C'est toujours le même. Je crains simplement que le christianisme des hommes n'ait enseveli ce projet de Dieu au point où les chrétiens d'aujourd'hui ne savent même plus quel est le projet que Dieu a pour eux. Ils en portent le nom. Quel est le projet que le Christ du christianisme a pour les chrétiens? Le savent-ils? Je crains qu'ils l'aient oublié. Je crains qu'ils ne puissent même plus le savoir, à moins d'aller chercher dans le mode d'emploi. On a fait des commandements de Dieu, de la Bible, des Saintes Écritures. Cette espèce de marteau que l'on va utiliser pour taper sur la tête des autres, pour les obliger à croire la même chose que nous. Ça, c'est non biblique. Dieu n'a jamais fait de sa parole un marteau. Elle est présentée comme la parole de vie. Elle est destinée à transmettre la vie, l'espérance, la paix, le bonheur. C'est à ça qu'elle sert. Et je crains que le christianisme en ait fait tout autre chose, qui a détruit la puissance de cette parole. Ce texte d'Ésaïe est intéressant, parce qu'il nous prend à rebrousse-poil. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Cessez de vous confier dans l'homme. Le christianisme des hommes, avec le temps, a appris à se confier dans l'homme et dans les traditions des hommes et dans ce que les hommes font. Et c'est évident parce que nous les voyons. Ce Dieu, nous ne le voyons pas. Il parle. Hélas, nous n'entendons plus. Cessez de vous confier dans l'homme. Dans Jérémie, le même appel est fait. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est encore un passage de l'Ancien Testament qui essaie de nous faire comprendre que le christianisme du Christ, le christianisme du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le christianisme des Écritures dans sa totalité, a ça comme objectif. De nous sortir de la sécheresse dans laquelle nous sommes. De permettre que nous puissions porter des fruits. Et nous devons reconnaître que notre christianisme ne ressemble pas toujours à ça. Christianisme des hommes ou christianisme de Dieu. Il faudrait que les deux puissent se superposer. Hélas, nous devons reconnaître qu'ils ne se superposent pas, qu'ils sont devenus bien différents. Et comme Jacques Ellul le disait tout à l'heure, je crains que le christianisme de Dieu et le christianisme des hommes soient devenus totalement opposés. Il va donc nous falloir retrouver dans le christianisme du Christ cette force vivante qui est dans sa parole. Jésus a parlé dans l'Ancien Testament et a porté un bon nombre de promesses. Il dit dans les psaumes, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors, cette parole est extrêmement belle parce que elle évoque chez moi une image. Dieu qui a son regard sur nous. Ceux qui ici sont des pères ou des mères, vous savez comment ça marche. Quand on apprend à un enfant à marcher, on est là. On le tient par la main. On ne lui dit pas, écoute, mets-toi derrière et puis suis-moi et on y va. Non, on le met devant, on lui donne la main et puis quand il a un peu plus d'assurance, on lui donne deux doigts et puis on surveille, on est là attentif. Et puis quand ça va mieux, on met la maman de l'autre côté de la pièce et on le tient et on lui dit, va voir maman. Et on sait qu'il va peut-être tomber, mais vous avez remarqué, on est là. On est là et on est prêt à le rattraper s'il tombe. Dieu dit, j'aurai le regard sur toi. Et lorsque les disciples de Jésus lui demandent comment est-ce qu'il faut prier, Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père. Voilà le Père dont il est question. Dans les psaumes encore, il est dit « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Je crois que Dieu parle encore. Le Christ du christianisme parle encore. Il va peut-être falloir que le chrétien moderne apprenne à écouter la voix du Christ plus que la voix du christianisme des hommes pour retrouver un christianisme qui fait la différence dans son existence. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ce texte a été écrit environ 500 ans avant Jésus. La question n'est donc pas nouvelle. Le conflit n'est pas nouveau. Dieu dit, voilà, il y a des bons sentiers, il y a un bon chemin, vous y trouverez le repos. Non, nous, on sait, nous n'y marcherons pas. Et on se demande après pourquoi le christianisme se retrouve, après 20 siècles, à l'opposé de ce qu'il est dans la parole de Dieu. On se pose encore la question. On se pose la question s'il y a un christianisme des hommes et un christianisme de Dieu. Si les deux coïncident, non, ils ne coïncident pas. Parce que l'homme a fait des choix qui ne sont pas conformes au mode d'emploi que Dieu a donné. Et ce mode d'emploi était le chemin qui conduit à ce que nous cherchons aujourd'hui. Le Christ donne dans le Deutéronome 7, par Moïse 7, cette ouverture. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Encore une fois, il n'est pas d'abord question ici de la vie éternelle ou du paradis. Il est d'abord question de ta vie, de la prolongation de tes jours. Comment est-ce possible? Le texte nous le dit. Cette vie, c'est quelque chose que nous avons à choisir. S'attacher à l'Éternel, obéir, entendre sa voix. Je crains que le christianisme d'aujourd'hui n'est plus le reflet de la voix du Christ et de Dieu. Et si nous voulons retrouver cette paix, cette prolongation de nos jours, si nous voulons que le christianisme ait une puissance dans nos familles, dans les difficultés que nous rencontrons, dans notre travail, dans les différents aspects concrets de notre vie, il faudra revenir tout simplement au mode d'emploi. C'est ce que nous faisons dans la vie concrète. Nous achetons quelque chose, si nous l'employons à tort et à travers, nous savons que ça va pas marcher. Nous allons lire le mode d'emploi pour l'employer comme il faut. Dieu nous dit simplement la même chose. Je vous ai donné un mode d'emploi. Suivez-le. C'est comme ça que vous aurez un christianisme vivant. Ainsi, dans ce sens, j'aimerais ce soir simplement avoir dressé devant vous le panorama. Christianisme des hommes, christianisme de Dieu. Hélas, aujourd'hui, nous devons conclure qu'il ne coïncide plus. Mais le christianisme de Dieu est toujours là. Il est disponible, il est accessible. Il est simplement inscrit dans le mode d'emploi. Et j'aimerais, avec vous, revoir certains éléments de ce mode d'emploi. Lorsque on se pose cette question, à quoi sert le christianisme ? C'est souvent dans les moments de difficulté et de crise. En particulier dans les moments de souffrance. Elle dit, mais quelle différence fait mon christianisme face au deuil, face à la maladie, face à la souffrance dans toutes ses formes? Quelle différence? Et beaucoup ne voient pas la différence. Ils l'ont perdue. Alors demain, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est prendre le mode d'emploi. Le mode d'emploi du Christ. Pour savoir ce que Dieu nous dit de la souffrance. Il y a quelques jours en arrière, nous avons parlé de la souffrance. Certains d'entre vous étaient là. par rapport à une dimension tout à fait différente, avec nos ressources psychologiques et personnelles. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Maintenant, si on va vers le mode d'emploi de la parole de Dieu, on va trouver là une dimension totalement différente, une approche totalement autre du problème de la souffrance. Mais est-ce que le christianisme a quelque chose à dire? Est-ce que le christianisme de Dieu a quelque chose à dire pour celui qui souffre, qui est dans la souffrance, dans le deuil, dans le divorce, dans les mille et une souffrances que nous rencontrons et pour lesquelles nous disons, il est où le bon Dieu dans toute cette affaire? Il est où? Alors j'aimerais demain soir vous aider à retrouver où il est le Christ du christianisme dépoussiéré, du christianisme du mode d'emploi, et découvrir ce que le Dieu de la Bible a à dire à l'homme moderne qui souffre. On a dressé ce soir un panorama, fait un constat du monde dans lequel on vit, et j'ai essayé de susciter chez vous le désir de redécouvrir un christianisme vivant. Il existe, il est là, on peut le trouver ensemble. Bonsoir.
Si vous voulez, on vous offre un jus. Puis on va continuer à discuter. Donc, on va passer de l'autre côté, dans l'autre pièce. Puis, maintenant, on va passer maintenant.